podcast festival à la Gaîté Lyrique. Les débats.
Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci d'être là, c'est très important. Parce que je sais que c'est la pause déjeuner. Et en plus, Mélanie m'a dit qu'il y avait une sorte de pot en haut, peut-être avec des choses gratuites. Donc on est très honorés que vous soyez là avec nous. Ce qu'on va faire aujourd'hui, pendant l'heure qu'il y a, on va discuter des différences qui semblent avoir entre les fictions natives autoproduites et les fictions natives produites notamment par France Culture. Et on va échanger ensemble et on va essayer de garder 10 minutes pour les questions que vous aurez, parce qu'on est là pour partager avant tout. Donc, j'allais oublier de me présenter. Bon, je m'appelle Rossola Gaugereau, je suis responsable de la création numérique à la SACD. La SACD, c'est une société d'auteurs pour notamment tous les auteurs de fiction en audiovisuel et en spectacle vivant. Et moi, je m'occupe de tout ce qui n'est ni diffusé en radio ni en télé, donc les podcasts natifs, mais YouTube, Netflix, Instagram et le reste. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai des auteurs et autrices de podcasts natifs. Alors, je vais commencer avec Mélanie à côté de moi, Mélanie Fionne-Courbizet. Je vous présente, comme ça, vous n'aurez pas besoin de le faire. Et comme ça, on rentre direct dans le vif du sujet. Juste cette idée cette semaine. Et ouais, c'est pas mon métier de base. Et j'étais en train de faire une fiche Wikipédia pour regarder la fiche de Baptiste. Et puis, il m'a appelé pile au bon moment pour m'envoyer sa bio. Donc là, je suis... j'aurais peut-être pas dû le dire, ça, c'est ça ? Ok. Donc, on va se vouvoyer pour les conventions de société, hein. Et puis on continuera à se tutoyer après. Donc, Mélanie, vous êtes diplômée des Gobelins et de Louis Lumière. Vous êtes scénariste de fiction, mais que ce soit à la télé, en web, en animation et aussi en podcast. Vous avez un appétit féroce pour les comédies et les expérimentations. On va entendre d'ailleurs une des expérimentations tout à l'heure. Et vous avez fait notamment des séries animées d'aventure dans un EHPAD, un cartoon radiophonique et une comédie sonore, on dit roman geek. Ça, c'est le jeu de mots parce qu'elle est humoriste aussi, de base. Hein. Mélanie fait tout, donc. Donc, elle a fait des fictions autoproduites, elle a été lauréate Beaumarchais, et elle a été lauréate du fonds France Culture SACD. Et c'est quelque chose qui est en cours d'écriture. Vous êtes dans l'ordre de mes fiches, c'est très bien. Donc, Mehdi Bayad, que voici. Mehdi est auteur-réalisateur. Il fait du spectacle vivant et de l'audiovisuel. Donc, Mehdi, toi aussi. Là, je commence à essayer de laisser mes fiches de côté. C'est un peu dangereux pour moi. Mehdi, donc, tu fais bien sûr de la fiction sonore, mais tu as fait du théâtre, de la fiction audiovisuelle avec Split. Une web-série, tu as aussi collaboré avec la RTBF, c'est ça. Et là, il a fait des fictions radiophoniques, fictions sonores autoproduites dans lesquelles il interprète lui-même. En fait, tu joues dedans, tu écris, tu joues, tu réalises, c'est ça. Il en a fait en 2020-2021. Il n'y avait pas sur ta bio, mais j'en ai entendu une qui s'appelle « Sans titre » en 2022.
Oui, je crois que j'ai un problème à nommer à chaque fois les choses. Voilà. Ça m'ennuie ce moment-là. Et donc, il y en a une, tous les épisodes s'appellent sans titre 1, 2, 3. Ouais. Oui.
Et donc, en septembre dernier, donc c'est le mois qui vient d'arriver, il est sorti Fureur, donc un podcast natif de France Culture, qui a été réalisé par Baptiste Guiton. Voilà. Donc, Baptiste, lui, il est formé à être comédien et metteur en scène. Donc, Baptiste fait également du spectacle vivant. Donc, en fait, vous faites tous les trois plein de choses. On va voir si c'est pour ça que vous êtes essayé aussi à la fiction sonore. Et donc, il est aussi directeur artistique d'une compagnie de théâtre, l'Exalté. Mais depuis 2015, il réalise beaucoup de fictions sonores, notamment dans les premières qui sont sorties du fonds SACD France Culture, L'Appel des Abysses, qui a été écrit par Juliette Rose et ouais, fallait que je regarde.
Cyril Legret.
Et donc, tu en as fait plusieurs, mais tu as fait aussi des fictions radiophoniques classiques, l'adaptation du Petit Nicolas 1 et 2 en public, c'est bien ça. Et Fureur, qui est sorti au mois de septembre. Tu voulais rajouter quelque chose ? Vous, j'avais dit vous. J'avais dit qu'on disait vous. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Je vous en prie, non, tout va bien.
Maintenant, vous savez qui ils sont, à peu près, parce qu'ils ont des faces cachées. J'ai essayé de savoir si vous aimiez des chocolats, des trucs et tout, mais je n'ai pas trouvé. D'abord, on va commencer sur la base. L'écriture, l'initiation du projet. Comme vous Déjà, tous les trois, vous êtes sur plusieurs types d'œuvres, plusieurs formats. Comment on transforme une idée en podcast, le rapport entre quand on a une idée en spectacle vivant ou en animation, tu peux.
Alors, c'est une bonne question et en fait, ça dépend évidemment de l'idée de départ. Donc, je vais peut-être plutôt me concentrer sur la fiction sonore. Je peux citer l'exemple de ce qu'on va écouter tout à l'heure, qui s'appelle le laboratoire de fiction sonore. Et en fait, tout est parti d'une rencontre avec trois comédiennes où on avait suivi une formation qui s'appelle l'art des comédiens et comédiennes au micro, ce qui était animé par
Je l'ai pas sur ma fiche,
Benjamin Habitant. Voilà. Petit trou de mémoire. Et en fait, on a voulu prolonger ce qu'on avait appris et surtout mettre en pratique vraiment ce qu'on avait appris, qui était l'interprétation des textes au micro. Et comme je suis adhérente de la SACD, parce que je suis scénariste en télévision, et que j'ai vu qu'on j'avais accès à un studio de podcast de la SACD, et on s'est retrouvés régulièrement pour créer cet atelier où on vient avec des textes, on les prépare, on les choisit en amont, on les prépare. Et c'est un vrai espace d'expérimentation. Et à partir de ça, on s'est dit, je me suis dit, finalement, on pourrait le mettre en ligne et en faire vraiment un podcast où on met, évidemment, que les textes qui sont libres de droit, mais en tout cas où on a les droits. Et parce qu'on fait plein d'autres choses où on teste plein de textes différents. Donc voilà, c'est comme ça que j'en suis venue à mettre ça en ligne.
Et donc c'est l'idée de l'atelier qui t'est ensuite venue et le fait qu'il y ait le studio à disposition, c'était un bon moyen d'essayer, c'est ça?
Oui, exactement. Parce que c'est sûr, ce qui manque, c'est d'avoir ce qu'il faut, c'est du matériel normal et puis un espace parce qu'on est à quatre. Donc, évidemment, on peut faire ça chez nous avec un petit Tascam, mais c'est pas pareil. Là, au moins, c'est un studio qui est insonorisé, avec tout le matériel à disposition. On arrive, on appuie sur un bouton, et puis ça marche, et on récupère les fichiers à la fin, et c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est presque ça.
Oui, c'est un peu plus complexe. Tu fais bien de parler du studio, parce que pour les gens qui ont déjà des podcasts publiés, vous pouvez adhérer à la SACD directement et profiter du studio. C'est pour tous les auteurs, qu'on fasse du podcast ou non, mais les studios sont à vous. J'ai l'impression d'être Michel Durker, pardon. Mehdi, comment on va parler de... comment t'es venu l'idée de Führer et comment tu t'es dit que ça allait être une fiction sonore plutôt qu'une pièce de théâtre ou une série?
Peut-être que ça répond à ta question précédente aussi sur comment on adapte et pourquoi certains trucs se prêtent à la fiction radiophonique ou la fiction audio ou fiction sonore. Je ne sais pas comment on va appeler ça aujourd'hui.
On peut dire tous les noms.
Ça change à chaque fois, j'ai l'impression. Mais... Du coup, non, en fait, je ne sais pas pour les autres. Moi, quand j'ai une idée qui me traverse, ça dépend en fait du médium. Mais généralement, une idée va de pair avec une forme particulière. Je m'explique. Par exemple, certaines vont d'office, inconsciemment se prêter au théâtre ou à la télé. Ou parce qu'en fait, à chaque fois, tu as une... je vous apprends rien, mais chacun de ces médiums a une écriture particulière. Il y a une écriture sonore spécifique. Il y a des choses qui s'y prêtent plus. Après, ça dépend aussi de... ça, c'est quand des idées viennent, mais il y a des fois où c'est des commandes. Dans ce cas-là, tu dois essayer de faire rentrer une idée dans des critères particuliers. Donc là, en l'occurrence, pour Führer, pour France Culture, c'était suite à un appel à projet dont tu as parlé, où tu es lauréate aussi, je crois. Donc c'était le fonds SACD France Culture. Et là, c'était assez cadré, c'est-à-dire qu'il demandait d'envoyer, je crois que c'était un pitch, un synopsis, une note d'intention, etc. Et il y avait déjà... un script complet du premier épisode. Et il y avait déjà l'idée de base de, je crois que c'était 6 épisodes de 20 minutes ou 25, si je dis pas de bêtises. Donc là, en l'occurrence, le cadre est déjà arrêté, plus ou moins, et la forme sonore est là. Donc, ton idée, tu dois la prendre et la retourner, etc. Mais moi, je me disais que, en fait, je suis parti, par exemple, pour cette fiction, de l'idée de discussion à travers une radio. À l'origine, j'avais même pas l'idée de la cabane ni quoi que ce soit. Je voulais juste raconter l'histoire d'un type bloqué quelque part avec une radio. Et je me disais que ça se prêtait très bien à un travail sur l'imaginaire, sur les voix, sur le... Et souvent, c'est ce que je fais, en fait. Pour d'autres fictions que j'ai pu écrire, je pars de l'idée... Là, en l'occurrence, il y a plus de moins, mais souvent, je pars de l'idée que c'est sonore, que j'ai, quand je fais des fictions indépendantes, que j'ai pas de fric, que j'ai pas du matos dingue, donc je dois trouver des subterfuges scénaristiques pour raconter, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais par exemple, pour raconter, donc ce sera un type bloqué quelque part, ou deux personnes dans un studio de podcast, ou des appels téléphoniques, et alors avec un vieux micro Zoom que j'ai chez moi, ça marche, et avec un peu de mix. Et donc voilà. Et là, pour, en l'occurrence, j'avais juste cette idée-là pour Führer, et après j'ai développé un univers au-dessus, en restant focalisé. Je crois que c'est un peu ça pour l'écriture radiophonique, pour que ce soit, que ça marche un peu, et surtout pour avoir des idées. Il faut en permanence se recentrer sur la place de la parole et de l'imaginaire, tout le temps. Et donc là, après, l'idée d'une cabane dans une forêt, un petit peu, bah, ça s'y prêtait vraiment, parce que là, tu peux partir à fond les ballons sur un truc un petit peu éthéré, étrange, sans forme précise, et donc c'est vous, en écoutant, qui reconstruisez tout ça, en gros.
Je suis déjà en train de quitter mes fiches, mais pour toi, Baptiste, qui fait du podcast natif et aussi de l'adaptation radiophonique de pièces de théâtre, c'est avec ses voix d'auteur, hein.
Non. Alors, entre autres, oui, ouais, il y a eu en partenariat avec la SACD, oui, il y a eu des voix d'auteur qui étaient des lectures, voilà, des moments très particuliers qui sont dévolus à un auteur, une lecture mise en musique, par exemple. Oui.
Et donc, comment on passe de ces choses de spectacle vivant où il y a beaucoup de visuels à quelque chose qui peut se suivre et nous, le public, ressentons des émotions via justement juste les oreilles?
Ben, pour rester justement sur la question de l'écriture, je crois que la réalisation, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui nous est possible d'adapter, qui sont des œuvres qui sont tombées dans le domaine public, donc sur lesquelles on peut travailler la matière et la rendre peut-être plus radiophonique, plus sonore. Et puis de toute façon, la réalisation en soi, c'est une écriture sonore, c'est-à-dire que c'est une synergie de plusieurs informations, de plusieurs stimuli sonores qui vont donner à un moment à l'auditeur des perceptions logiques, cohérentes, qui font qu'à un moment donné, l'auditeur va penser que c'est crédible, que ce soit réaliste ou non, surréaliste ou non, mais l'auditeur va penser que c'est crédible et donc ne se posera plus la question de la mise en scène. Les meilleures réalisations sonores sont celles dont on n'entend pas la réalisation. Donc il y a cette écriture qui tend à l'invisibilisation du travail qui est fait à l'intérieur. Et c'est le cas, j'ai presque envie de dire, quels que soient tous les registres de textes qu'on travaille. C'est vrai qu'à France Culture, on a la chance de travailler beaucoup de registres littéraires différents, mais que ce soit pour la poésie, l'adaptation de pièces de théâtre, que ce soit pour des lectures de nouvelles, pour des scénarios aussi aboutis, aussi construits que ceux de Mélanie ou Mehdi, il y a toujours cette chose qui est de l'ordre de l'enquête. Qu'est-ce qu'il y a dans le texte? Qu'est-ce qui va rendre la chose radiophonique? L'enquête en collaboration avec l'auteur. Et puis après, une réécriture qu'on appelle réalisation, avec l'ensemble de l'équipe, évidemment, de réalisation. Ouais. Ouais.
Je vais vous repasser la parole. C'est une question que j'avais beaucoup plus tard, mais en fait... Elle est à point maintenant. Parce que tous les deux, vous avez fait des fictions autoproduites, et tous les deux, Mehdi Führer est déjà sorti, mais vous êtes accompagné par France Culture. En termes de réalisation, quand on est autoproduit, comment on pense tout ça, Mélanie?
On pense avec les contraintes qu'on a, comme tu expliquais, Mehdi, voilà, de savoir. Ce dont tu as accès, si tu as un micro Zoom ou quoi que ce soit. Donc tu fais avec les contraintes matérielles et puis avec les contraintes aussi de ce que tu peux avoir en termes de nombre de comédiens, comédiennes, tout ce genre de choses. Et moi, clairement, je pense à ça tout de suite, dès le départ, en me disant, bah oui, j'ai ces contraintes-là, donc il faut que je les prenne en compte. Et même moi, mes contraintes techniques, qu'est-ce que je suis capable de faire et qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire. Et ça, je pense vraiment dès le début, ce qui me permet de ne pas partir dans des trucs complètement infaisables.
Oui, je suis entièrement d'accord. Les contraintes, en fait, sont stimulantes. Si tu les prends sous cet angle-là, ça donne des idées et ça réduit. Parce que tu peux arriver face à un scénario et être un peu étourdi par toutes les portes possibles que ça peut emprunter. Et souvent, en fait, un certain nombre de contraintes, quand tu as peu de moyens, te forcent à devoir être inventif, à devoir réduire le spectre de ton... Et ce qui peut être intéressant, enfin, moi, ce que je me suis amusé à faire souvent, c'est de trouver un... schéma scénaristique un peu bizarre, et alors dans ce petit schéma exploiter tout ce que je peux, toutes les petites façons de raconter. Par exemple, je disais des appels téléphoniques, bon bah alors ça va être seulement ça, très bien, comment rendre ça un peu différent à chaque fois, comment exploiter ça à fond. Donc ce sera certaines fois juste un répondeur, d'autres fois là, après ça va se placer entre les deux, et puis on va, enfin, je veux dire, dans un petit cadre, en fait, si tu le réduis, tu peux t'amuser. Mais ça, c'est pour quand tu n'as pas de moyens et que tu te montres inventif. Quand c'est, par exemple, dans le cadre de Führer, là, par contre, je me suis régalé. Hein, j'ai mis des choses super compliquées à réaliser. Il faut y avoir un hélicoptère, c'est open bar, quoi. Et c'était aussi une autre façon. Mais c'est super agréable. En tant qu'auteur, c'est les deux extrêmes. Là, pour le coup, tu n'as aucune limite, ou presque. Et après, c'est bonne chance à Baptiste, mais qui a fait un super boulot derrière, qui a géré ça magnifiquement. Mais voilà, tu as les deux extrêmes, et les deux te donnent des idées. Mais encore une fois, par exemple, pour Führer ou pour des fictions France Culture, tu as tellement de marge de manœuvre, de possibilités, que c'est compliqué aussi de ne pas perdre l'équilibre, tu vois, et donc de te recentrer en permanence sur l'intelligibilité du récit, la compréhension, et ne pas en faire trop, tu vois, être dans une certaine mesure en permanence. Donc c'est un espèce d'équilibre entre les deux à trouver. Mais c'est un luxe d'avoir pu naviguer entre les deux, en fait. C'est deux expériences folles. Voilà.
Avant de répondre à la question de la jeune personne, on va écouter un extrait du laboratoire de fiction sonore de Mélanie.
Donc, l'art de la conversation sur les sujets de la vie pratique. À table. La maîtresse de maison.
Elle demande ce qu'elle peut offrir.
Que désirez-vous ? Du bœuf ou du poisson ?
Le convive ou invité ? Le convive indique ce qu'il aime le mieux.
Cela m'est parfaitement égal. Je mange de tout. J'ai une faim de loup. Vous donnerai-je, servirai-je, offrirai-je un peu de viande ? Très volontiers, madame. Je veux bien, madame. Puis-je vous offrir du rôti ? Je vous en demanderai un peu. Voulez-vous prendre un peu de salade ? Désirez-vous du roast beef ? J'accepte avec plaisir. Prenez donc un peu plus de cette langouste. Je le veux bien, merci. Un petit morceau de poulet maintenant ? Mais un très petit morceau, je vous prie. Ne voulez-vous pas goûter de cette matelote ? Je vous en demanderai un soupçon. La salade au hareng ne vous tente-t-elle pas ? Veuillez m'en donner une cuillerée, seulement pour la goûter. Voyons, encore un peu de pâté. Très volontiers, madame. J'adore le pâté, c'est mon plat de prédilection, mon mets favori. Comment trouvez-vous le roast beef ? Je le trouve délicieux, ou exquis. Mais vous ne mangez rien, vous ne faites pas honneur à mon repas. Pardon, madame, j'ai mangé comme quatre. Encore un peu de ce poisson, de ce filet de sel. Non, je vous remercie. Pas davantage, merci. Sans façon, merci. Un peu plus de roast beef. Merci, madame, je suis fort bien servie.
On peut applaudir, s'il vous plaît. Il y a plus de monde que tout à l'heure, non ? Ça se remplit au fur et à mesure. Dans ce cadre-là, quand on est en autoproduction, une fois que c'est enregistré, qu'est-ce qui nous reste à faire ?
Alors, une fois que c'est enregistré, ce qui reste à faire, c'est déjà d'écouter les rushs, évidemment, et de faire un choix, parce que on prend pas forcément tout déjà au niveau du texte, et puis on a fait plusieurs prises aussi, donc voilà, il y a tout un dérushage à faire et un montage pour caler le rythme aussi, et après, une fois que tout ça est fait, je m'occupe du nettoyage des pistes pour retirer tous les bruits éventuels, des choses comme ça, et ensuite je mets du son, je rajoute du son. Et puis je fais un traitement aussi. Par exemple, sur celui-là, j'ai fait aussi un traitement au niveau des voix, parce que pour avoir l'illusion que le dialogue, ce soit deux personnes qui sont dans une salle, alors qu'en réalité, on était vraiment toutes avec un micro dans le studio de la SACD. Donc ça veut dire que c'était une voix de, des voix de premier plan, en fait. Donc voilà, donc je fais un, voilà, je fais un traitement pour donner cette illusion qu'on était vraiment dans une salle avec, avec une table, un repas, des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'il reste à faire ? Après, exporter le fichier. C'est...
Et je sais que... Donc toi, c'est comme ça que tu... Je vais tutoyer tout le monde, c'est mieux. Hein. C'est comme ça que tu fonctionnes. Mehdi, j'ai entendu... Alors, dans un des 100 titres, il y en a un où c'est une sorte de conduite en enfer, mais en Uber. Ouais. Et donc, est-ce que c'est toi qui l'as réalisé ? Est-ce que tu as dû faire ce travail de spatialisation avec quelqu'un devant, quelqu'un derrière ? Quel procédé, toi, tu as pu utiliser pour ça ?
Je ne sais plus du tout comment je l'ai fait, celui-là. Non, je crois que, par exemple, j'ai fait une autre fiction qui était une fiction policière dans laquelle on avait plus de moyens et il y avait par exemple une scène de voiture. Et enfin, il y a plusieurs façons de la faire et on a essayé deux, sur les recommandations de l'ingé son, deux façons de faire, une dans une vraie voiture et une ailleurs. Et enfin, je serais très curieux d'avoir aussi ce qu'il vaut faire dans ces cas-là. Mais la version dans la voiture était super. Par contre, on était coincé par un certain nombre de choses. Après, si tu veux remettre des effets, enlever, enfin, tu vois, t'es coincé par le décor parfois. Il y a des fausses bonnes idées. Par exemple, tu veux faire une scène dans une salle de bain, faut pas la faire dans une salle de bain. Tu rajoutes une réverb, des effets. Enfin, c'est des trucs. Parfois, le trop réaliste est une très très mauvaise idée. Avec une acoustique mat, tu peux avoir des choses plus intéressantes en bidouillant après, en mettant plein d'effets. Voilà, je regarde expert sur le côté.
Parce qu'il y a certaines choses qui sont, une fois que la prise de son est faite, il y a certaines choses qui sont irréversibles. Et donc, toi, Baptiste, comment tu ferais pour soit une voiture ou justement une discussion comme ça, premier plan, second plan, comment ça se passe ?
Concrètement, il y a plein de possibilités. Si on prend peut-être des exemples sur celui de Führer, donc une production sur laquelle on a quand même des moyens, on est très très bien accompagné. On a en discussion donc avec la production de France Culture et notamment Brigitte Sabanveilleur, qui est notre responsable adjointe. Et voilà, la Jeep dans Führer, elle est primordiale, elle est hyper importante. Elle a une manière de se comporter, elle dérape, elle est proche, elle est loin. Enfin. On ne peut pas trouver ça dans une banque de données de sonore. On a cherché, évidemment, hein, on ne va pas commencer à dépenser du fric. Mais là, je ne voyais pas comment faire autrement que d'avoir une Jeep, d'aller dans une forêt la plus calme possible et faire toutes les manipulations nécessaires de cette Jeep avec les preneurs de son. Donc c'est la Briteuse et le Diffiat, et le chef opérateur Julien Demain, qui sont partis à Rambouillet après avoir loué une Jeep et qui ont fait toutes les manipulations sans les comédiens. Donc on a eu déjà le fonctionnement de la Jeep, on avait le son, donc on avait un script du son de toute la manip, voilà, à l'intérieur, à l'extérieur, elle dérape, etc. Et en studio après, dans ce qu'on a essayé de, recomposer ce qu'on appelle une chambre sourde, c'est-à-dire une chambre, voilà, un studio qui ne réverbe pas le son et qui reproduit un petit peu les qualités sonores d'un extérieur. On a mis un comédien sur un siège qui ressemblait plus ou moins à un siège de Jeep, avec tous ses grincements, etc. Ça, c'est encore Elodie Fiat, la Briteuse, qui fait un travail remarquable. Et donc, on a fait en sorte que le comédien puisse réagir au son qu'on avait enregistré de la Jeep. Donc là, il y a une adjonction de deux choses. Un travail de réalisation presque naturaliste, réaliste en extérieur, et puis du bidouillage en studio. Et après, bah, c'est la magie de nos ingé-sons qui font que les deux choses s'assemblent merveilleusement bien. Après en post-prod, voilà. Mais quand on a moins de moyens, parce qu'on n'a pas toujours cette chance-là, on a des banques de données. Et après, c'est un travail sur l'acoustique, c'est un travail de plugin, c'est un travail sur les filtres, c'est un travail avec. On a aujourd'hui avec nos moyens numériques des suites isotopes, des suites ceci, des suites cela, qui nous permettent à un moment donné de transformer la voix du comédien simplement, si vous voulez, de l'inscrire dans une acoustique particulière qui puisse correspondre à un type de véhicule. Et ce véhicule, ben, on le trouve dans des banques de données sur les internets.
Est-ce que la Jeep était dans le script de base ou c'est en bossant ensemble? Comment?
Oui, elle était, ouais. C'était déjà présent. Je crois que dans cette fiction, en fait, il y avait un peu la volonté que chaque personnage soit défini par un élément sonore particulier. Tu as le Monsieur Lune qui éternue régulièrement, enfin, pour un peu témoigner de sa fragilité. En fait, chaque personnage a un peu une petite couleur sonore particulière. Et donc, Jacques, le patron des gardiens, lui, c'est la Jeep qui est en place, qui est mouvante, qui peut se déplacer partout, qui est un peu pesante, qui fait du bruit. Voilà, ils ont tous un petit truc précis. Je crois que la Jeep était déjà, était déjà présente, ouais. Ouais.
Tu veux dire que quand on écoute les épisodes, quand on entend le bruit de la Jeep, à un moment, au fur et à mesure, on sait que c'est Jacques qui arrive.
Oui, c'est ça. Et c'est implicite pour pas mal de choses. Après, il y a des petits éléments sonores. Mais c'est aussi, encore une fois, c'est juste que la fiction sonore permet plein de petits codes comme ça, de petites subtilités ou de petits éléments narratifs un peu différents qui sont parfois moins exploités ailleurs. Et je pense que quand on écrit ce genre d'histoire ou des histoires sonores, il ne faut surtout pas se réfréner et penser à plein de petites choses en permanence pour jouer sur les sons et que ça rajoute des couleurs au personnage ou que ça rajoute des éléments subtils. Il y a pas mal de choses. Moi, j'aime bien les fictions audio où il se passe des choses en arrière-plan, où tu as une seconde lecture de ce qui est en train de se passer. Et notamment, bah, pour ça, par exemple, pour des bruitages, mais aussi pour les éléments de nappe musicale, j'aime pas trop quand, par exemple, la nappe musicale fait écho ou renforce simplement l'émotion. Bon, ils sont tristes, on va mettre un violon. J'aime bien quand il y a c'est évident, mais ce genre de petits contrastes ou des petits décalages, le cerveau les intègre hein, en écoutant. Sauf si tu écoutes ça dans ta voiture en roulant à 180, le t'entends mal, mais je veux dire, si tu écoutes bien au casque et tout ça, tous ces petits éléments derrière sont parfois aussi forts que des dialogues. Et s'ils sont subtils, ton inconscient les prend. Et donc, on joue un peu avec le cerveau de l'auditeur ou de l'auditrice, c'est encore mieux, quoi.
Et à quel moment ces éléments sont intégrés dans la narration ? Donc, la Jeep était là dès le début, mais il y a plein d'éléments, je suppose, qui se rajoutent au fur et à mesure, peut-être avant l'enregistrement. Comment ça se passe entre le scénariste et le réalisateur, ou la bruiteuse et tout ça? Comment ces éléments prennent forme?
Peut-être avant la partie sur la bruiteuse, mais par exemple, en l'occurrence, pour cette fiction-ci, il y a eu un travail. Moi, j'avais déjà écrit une première partie en collaboration avec Thibaut Martin, qui est un script doctor avec qui on a travaillé surtout sur les intentions, les personnages, les dialogues. Mais pour les éléments sonores, je suis peut-être un peu chiant. Parfois, je mets beaucoup de didascalie, mais c'est pas grave. Parfois, il faut les dégager et prendre une autre direction. Mais après ça, on a eu des discussions avec Baptiste, et ça, c'était super chouette, quoi. Parce qu'il voulait vraiment savoir où on allait, où allait chaque personnage, quel était le sens derrière chaque chose. Et donc, il y a vraiment eu ce travail ensemble de discussion sur les personnages, sur les ambiances sonores, et donc, petit à petit aussi, il s'appropriait le texte. Et en fait, après, au moment de la réalisation, il y a plein de choses qui étaient indépendantes de ma volonté et qui étaient même mieux que bien mieux que les idées que j'avais, parce que tu es parti dans d'autres directions avec parfois de la latitude, et c'est bien. C'est un travail à plusieurs, en fait. C'est ça qui est. Donc, je sais pas après avec la bruiteuse comment ça s'est passé précisément, mais le travail t'échappe un peu, et c'est pas grave quand tu es auteur, ça passe par plusieurs mains et chacun rajoute quelque chose, en fait.
Oui, ce que dit Mehdi est fondamental, en fait. On pense au collectif que peut être de l'écriture en passant par la production, en finissant, j'ai presque envie de dire, sur la livraison, ce que disait, il faut exporter le fichier. Bien sûr, c'est une assemblée qui travaille autour de ça, et cette assemblée, on ne fait pas de la réalisation seule, ça n'existe pas, donc elle est importante, mais c'est surtout un passage de témoin. Et en fait, ce passage de témoin, il doit être effectivement fait en confiance. C'est-à-dire que si à un moment donné, de l'écriture en passant par la production, la réalisation, le réalisateur qui va demander une intention au bruiteur, le bruiteur qui va la réaliser, l'ingé son qui va s'en emparer et qui va travailler dessus après, s'il y a un maillon là-dedans qui n'est pas en adéquation, c'est là où on se comprend pas et c'est là où ça déraille. Donc en fait, il y a évidemment un travail terminologique hyper important à faire. Et ça, je pense que c'est le boulot du réal, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs sans doute la grande partie du boulot du réal, c'est de trouver un vocabulaire commun entre toutes ces personnalités qui concourent à la réalisation d'une fiction, de trouver ce vocabulaire commun et à un moment donné d'aller dans le même sens. Ça veut pas dire forcément que la bruiteuse va faire ce que j'imaginais. Moi, je dis souvent, quand je travaille sur un texte, notamment Führer, j'imagine évidemment beaucoup de choses. À la fin, Führer ne ressemble pas du tout à ce que j'avais imaginé, parce qu'il y a plein de singularités. On n'a pas parlé de la musique originale, le travail de Sébastien Quincet, mais il y a plein de choses qui viennent s'ajouter à ça. Et puis, malgré nos moyens, aussi des contraintes qui nous ont obligés à peut-être faire ça comme ça, parce que sinon, ça devenait complètement fou, les switches, notamment entre la cabane et la forêt, à un moment dans l'épisode 4. Donc il y a un moment où il faut aussi, comme tu le dis très bien, accepter d'être complètement dépossédé de ce qu'on avait imaginé, ne pas vouloir faire de l'opéra et dire c'est comme ça que je veux, toi t'arrives du fond et puis tu viens à l'avant, faire confiance aussi à toute l'équipe avec laquelle on travaille, et il y a une cohérence, des fois une espèce de grâce qui nous échappe, il y a un truc qui arrive et on se dit putain c'est vachement bien ça, c'est super, et donc c'est cette prise là qu'on va prendre et qu'on va amener en post-prod, voilà.
Je vous propose d'écouter un extrait de Führer, donc c'est l'épisode 4, il me semble. avec un passage dans la radio, dans le talkie-walkie, et on va en discuter juste après.
Par Mehdi Bayad et réalisé par Baptiste Guiton. Quatrième épisode.
Il n'y a rien par là.
Si, sur toutes les cartes, la rivière va jusqu'au centre de la forêt, c'est là-bas qu'ils fabriquent les monstres. Là où brillent les feux, dans la nuit.
Les monstres ?
Ceux qui vivent dans les arbres, sous les pierres, et même à l'intérieur de nos têtes. Ils les fabriquent en secret.
Ne l'écoute pas, Thomas, il est complètement fou.
Au contraire, j'y vois clair. J'ai pigé la vérité ce matin. En discutant avec la journaliste, ça m'a fait comme une illumination. Ça peut pas être un hasard. Des incendies, des catastrophes partout dans le monde, des bagnoles qui se pointent ici, et à la radio, ce foutu compte à rebours qui se termine dans moins d'une semaine pour la fête du progrès. Vous voyez pas le rapport, tout est lié.
Vous entendez ça? Un hélicoptère, vous le voyez?
Oui, on le voit d'ici, il vole pas!
Il est en train de survoler ma cabane, il se dirige droit vers la forêt! Je vois des lumières plus bas, on dirait des lampes. Lucie, vous pouvez pas rester dans la forêt, ils vont vous trouver.
Évidemment qu'ils vont nous trouver.
Non. Ah si, on reste en mouvement. Allons, on avance. On est tout près du but. Allez.
Silence.
On peut applaudir le travail de Mehdi et Baptiste. Et de toute l'équipe, parce que vous êtes plusieurs. Avant de revenir sur l'écriture, on posera la question à Mélanie. Comment cette scène-là, par exemple, Mehdi, qu'est-ce qui différencie ce qui était écrit quand tu pensais avoir terminé l'écriture et ce qu'on a entendu là, juste là?
Ben, je trouve ce passage est illustratif d'un truc sympa qu'on peut faire de tout ce qu'on peut faire en radio, parce qu'il y a pas mal d'allers-retours et en même temps, on rebascule avec les uns avec les autres. Ça crée du rythme, ça crée de la proximité, ça crée. Voilà, il y a beaucoup de choses qui dans ce petit passage, je trouve. Et ça, en fait, c'est entièrement Baptiste, parce que moi, j'étais parti sur un truc très radical où on est en permanence avec Thomas dans la cabane. Voilà, pendant tout l'épisode, on est avec Thomas dans la cabane et tout se passe à la radio. On entend tout à la radio. J'aime bien les choses un petit peu, mais en fait. Parfois, c'est pas une bonne idée. Et là, ça marchait mieux, beaucoup mieux. Ça fait de la respiration. C'est voilà. Et pour le coup, on a eu cette discussion avec Baptiste qui a proposé cette idée d'aller-retour. Et moi, ça me semblait génial en fait. Et le résultat est bien mieux. Ça fait respirer, ça crée de la dynamique, ça crée du rythme, un autre rythme, etc. Je sais pas si tu voulais rajouter un.
Non, mais c'est en fait. Quand on parlait de quand on parlait d'écriture, c'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, la porosité entre le scénariste et le réal est vachement intéressante quand on a la possibilité de bosser comme ça, parce que Mehdi arrive avec un matériau plutôt hyper hyper riche, hyper, et donc derrière on se permet effectivement peut-être de dire ah purée, ça c'est vachement intéressant, le fait qu'il entende une course-poursuite à la radio et qu'on stresse, etc. Mais à un moment donné, est-ce qu'on pourrait pas switcher et effectivement vivre, puisqu'on est sur de l'immersif et du binaural, alors là on s'en rend moins compte, mais est-ce qu'on, voilà, et donc c'est là où les allers-retours deviennent hyper intéressants et on se nourrit l'un de l'autre, etc. Mais à la base, on a un matériau qui est hyper prolixe et qui à un moment donné, c'est aussi en discutant avec l'équipe de réalisation, avec le chef opérateur et l'opérateur, qui à un moment donné me disent, ça, typiquement, on peut le faire. Alors, c'était un bazar pas possible parce que il y a la forêt qui est dans le studio, la cabane on la met dans la cabine.
Attends, ouais. Tu dis que la forêt est dans le studio. Expliciter.
La forêt est dans le. Alors, Führer, c'était complètement. Je l'ai très très peu fait en décor réel. pour ceux qui l'ont écouté, tout ce qui est dans le bourg, le café, les extérieurs, ça c'est du décor réel, mais tout ce qui est de l'ordre de la forêt, la cabane, on a tout fait en studio parce qu'on voulait vraiment avoir la main sur le moindre son de la forêt. On voulait que la forêt se comporte de manière organique et qu'elle ait une... qu'on l'entende respirer, qu'on l'entende bouger, qu'on entende des membres, qu'on l'entende... voilà, c'est un travail qu'on avait déjà un petit peu démarré avec une autre production qu'on avait fait sur Germinal, où il y avait cette mine qui était une espèce de gros Godzilla, où les gens rentraient dans la gorge, il y avait ce truc organique. C'est vachement intéressant, le naturalisme à la radio. Et donc, voilà, la forêt, il fallait qu'on la recompose. Mais donc, switcher, c'est un peu, je vais essayer d'être concis, mais switcher d'une scène à l'autre, il faut que les comédiens s'entendent, il faut qu'on ait le son de la forêt qui arrive en dégradé dans la cabane. Donc nous, on prend le son dans la cabane avec Thomas, et il y a une petite enceinte qui envoie ce qui est fait dans le studio avec la bruiteuse, voilà, où ils sont dans la forêt, etc. Et puis après, quand on passe, donc ça, c'est quand on entend depuis la cabane, et on inverse. Après, quand on entend dans la forêt, enfin bon, bref, voilà, c'est un peu compliqué à expliquer. Moi, j'ai
mais ils étaient dans deux studios séparés, ils en train de jouer en simultané.
Non, parce qu'on n'avait pas deux studios. C'est là où, à un moment donné, on est hyper gourmand et France Culture peut pas nous louer deux studios. Faut rester cool, c'est de l'argent public. Mais c'est quand même. Mais à un moment, c'est là où tu dis, tu vois tes ingé-sons, tu fais en fait, on n'a pas le choix. Il faut qu'on le fasse simultanément. Je peux pas enregistrer les uns qui vont parler à un mec et l'autre. Sans, y a rien de pire, et on l'entend des fois dans certains films ou certaines fictions. Tu sens dans des conversations téléphoniques qu'il y a un comédien qui a été enregistré. On a enregistré toute la conversation téléphonique d'un côté, et l'autre lui parle. On enregistre après un autre comédien de l'autre. Ça se répond pas, ça marche pas. C'est organique. La fiction radio, c'est pas du doublage, c'est organique, c'est des corps, c'est une intention de jeu. C'est tu me parles avec cette dynamique-là. Moi, je te réponds, je te renvoie à ça. C'est du tennis, c'est du. Donc, à un moment, il fallait que tous les comédiens jouent ensemble. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a embêté les techniciens dans leur cabine de prise de son. On a installé soit la cabane, soit la forêt, selon. Et on a voilà, et on a fait tout un réseau, effectivement, de diffusion pour entendre, etc. Fallait se parler, nous, avec des talkie-walkie. Enfin, c'était un bazar pas possible. Mais c'était super. Et ça, c'est les techniciens. Ça, c'est clairement, moi seul, je dis j'ai une idée, mais c'est eux qui trouvent le truc et qui disent on va faire comme ça. Et là, c'est vachement intéressant. Et après, il y a tout le travail en post-prod sur l'acoustique, le travail de Sébastien sur les instruments, Sébastien Quincé sur les instruments, les nappes, les petits trucs qui viennent redynamiser, où on prend un peu d'air, etc. Il y a l'hélico, enfin bon. Là, c'est vraiment les équipes qui savent matiner le son, qui sont des artisans du son, qui réussissent à faire ça. Moi, je suis qu'un.
Il faut faire un making of un coup de ce qui se passe. Ouais. France Culture.
On fait des fois des petites vidéos, mais c'est vrai que alors des fois il y a des trucs un peu ridicules, genre des courses poursuites, genre des bagarres, etc. C'est assez ridicule parce qu'on se tape dessus, on tourne en rond, mais c'est drôle, c'est très drôle à voir. Et puis il y a des fois des prouesses comme ça un peu techniques où je sens que les mecs ont bossé tout le week-end, le lundi matin ils arrivent et ils font ça y est j'ai trouvé et là tout d'un coup tu vois le plateau se modifier, etc. Tu regardes, t'as les acteurs qui regardent aussi, tout le monde se dit putain comment on va enregistrer ça. Et oui, on a des moyens de production, mais on a une contrainte qui s'appelle le temps. Le Führer, je devais la livrer en juin. Il était hors de question de reprendre encore des moyens. Il fallait qu'elle soit... voilà. Donc, tu sais que tu as 4 heures pour faire ça, quoi. Donc, voilà. Là, à un moment donné, si on se plante sur ce dispositif-là, dont on n'était pas sûr parce qu'on l'expérimentait pour la première fois, ça pouvait buzzer, etc. Enfin, je passe sur les questions techniques. Ça pouvait vraiment nous foutre dedans, quoi. C'est là où on travaille à Radio France, il faut bien le reconnaître, avec des cadors, quoi. Les mecs, ils sont hallucinants.
Les studios à la SACD sont très bien, mais on peut ni se battre, ni ramener de la forêt dedans. Donc... Mélanie, toi qui es en cours sur les deux, donc tu es en cours d'écriture d'une fiction avec France Culture et tu continues tes expérimentations, comment te servent tes expérimentations que tu fais avec les textes que tu as et l'enregistrement quasi immédiat que tu peux faire, comment ça peut te servir pour la suite, pour justement après aller sur des choses plus ambitieuses techniquement ?
Alors ça me sert surtout bizarrement dans l'écriture. En réalité, parce que le fait d'expérimenter comme ça et d'avoir la liberté de pouvoir texter, de pouvoir tester vraiment des choses, ça me permet d'avoir une écriture orale et de me rendre compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des choses qui ne passent pas. Et ce qui fait que derrière, ça me sert ensuite pour le projet avec France Culture, où je me rends compte, oui, un monologue trop long... Enfin, s'il n'y a pas des choses vraiment intéressantes dedans à certains moments, si c'est trop long, il faut couper. Enfin, il y a tout un tas de petites subtilités. Donc, c'est surtout dans l'écriture que ça me sert. Et ouais, voilà, principalement.
Ok. J'ai oublié de demander dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes qui produisent des podcasts de tout type ? Levez la main. Et ça fait quand même plein de gens. C'est pas mal. Est-ce qu'il y en a qui sont en cours ou qui voudraient le faire ? Ok. Bon, j'ai quelques nouvelles pour vous. Alors, déjà, je pense que c'était hier, mais la SACD et Radio France ont renouvelé leur accord pour la création de podcasts natifs. Donc, c'est ce qui permet, en fait, de créer des choses comme Führer, ou je ne sais pas si on a le droit de dire le titre, on ne le dira pas encore, ou la fiction sur laquelle travaille Mélanie. Et je pense dans les prochains mois, vous aurez des nouvelles de peut-être de certains appels à projets auxquels vous pourrez participer. Mais en ce moment, à partir d'aujourd'hui, il y a un appel à projet qui s'appelle Sounds of New York, qui est à l'initiative de la Villa Albertine, qui permet à des auteurs et des autrices de podcasts de partir à New York. Le but, c'est de promouvoir des podcasts français qui auraient un potentiel international. Donc, c'est sur le site de la Villa Albertine, c'est en ligne à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez aller, hein, c'est gratuit pour participer. Il y a quelques conditions qui sont disponibles sur le site. Et je vous invite à regarder si ça vous concerne de postuler, parce que tous les gagnants ont essayé. Claire Guichard, qui va parler tout à l'heure à une masterclass dans une autre salle, je suppose. Non, c'est ici ? Je sais pas. Dans la grande salle, elle y a été. C'est une des lauréates. Donc il y a des podcasteurs de fiction qui y vont, mais aussi non-fiction. Donc tout le monde a sa chance, j'ai envie de dire. Français. En fait, le podcast est francophone, mais je pense que c'était pour raison simple de STA, il faut que les auteurs et les autrices soient de nationalité française. Mais après, ils peuvent être basés n'importe où dans le monde, techniquement. Je pense que ça coûte un peu plus cher si vous partez d'Australie, je suppose. Mais si vous habitez en Australie, je suppose que vous n'êtes pas là tout de suite, dans la salle. Hein le podcast, en fait, c'est pour qu'il ait une dimension peut-être à être développé dans une autre langue, notamment l'anglais. Mais c'est aussi, il y en a certains qui sont partis, ils ont vu Spotify, le New York Times aussi, pour voir comment ils font leur podcast. Et ça permet aussi d'échanger sur les manières de faire. J'aurais dû lire ma fiche, mais là, j'improvise totalement. Okay. Donc ça, c'est pour vous. Donc gardez cette information, parce que je suppose que pour Sounds of New York, le communiqué de presse n'est pas encore sorti. Donc vous êtes parmi les premiers à le savoir. Là, ça fait vraiment Drucker, désolé. Donc on voit qu'il y a des gens qui font des podcasts dans la salle. Mélanie, est-ce que tu pourrais dire pour toi en quoi le studio t'a aidé ou t'aide encore aujourd'hui ? Et les erreurs que tu as pu faire après le studio, vous avez le droit à 6 demi-journées par semaine, donc il y a assez de temps.
Par mois.
Par mois, pardon. Oh là là, oh là là, oh là là. Rectifiez vos notes, s'il vous plaît. est-ce que ça t'a appris ? Est-ce que t'as fait des erreurs dedans qui t'ont appris plus tard ? Voilà.
Oui. Déjà, pour répondre à ta première question, clairement, le fait d'avoir accès à ce studio-là, ça m'a permis de faire quelque chose que j'aurais jamais, enfin, je pense que j'aurais pas fait. C'est le fait de se réunir avec ces trois comédiennes et d'expérimenter des choses. Le fait d'avoir cet espace-là, c'était vraiment la bonne excuse pour enfin faire quelque chose. Et après, les erreurs que j'ai faites, c'est surtout des erreurs techniques, notamment le fait de gérer les micros. La distance au micro, la sensibilité, enfin des aspects très techniques où justement on se rend compte seulement en post-prod que si la personne elle a parlé trop proche du micro et que ça crache trop, après moi j'arrive pas à le rattraper parce que je suis pas un gesson, donc En post-prod, voilà, c'est un peu fichu, c'est pas assez moche au niveau auditif. Et c'est surtout ça. Et puis il y a eu une erreur, c'est un détail, mais la console, j'ai découvert que on pouvait régler soit en monopiste, soit en multipiste. Et donc un jour, j'ai pas compris pourquoi j'avais 12 gigas de fichiers et que j'avais pas de place sur mon ordinateur pour les prendre. C'est parce que c'était du multipiste avec 12 pistes et voilà. J'ai appris de mon erreur.
Donc ça te forme aussi un peu sur la technique, même si t'es pas voué à être ingénieur du son et tout.
Oui.
Ça t'apprends des choses que tu utiliseras peut-être si ta fiction est réalisée par Baptiste, par exemple. Ça pourra.
Peut-être que ça m'apprendra à dialoguer avec, avoir le même jargon avec Baptiste, mais oui, c'est évidemment, je vais pas faire un G-son.
Y a-t-il des questions ? Oui. Attendez, je vais faire double emploi.
Bonjour, merci. Bonjour à tous. Très content d'être là. Merci pour vos retours et témoignages. C'est excellent, c'est génial ce que vous faites. Vraiment cool. Alors, j'avais deux questions. La première, c'est combien a coûté la réalisation du projet ? Le vôtre, Führer ? Parce que vous parliez de pas mal d'une équipe qui était autour de ça et puis les moyens techniques.
Bien sûr.
Voilà, c'était ça ma première question. Et puis, j'ai trouvé la transition forêt-cabane géniale. C'était cool. Vraiment cool.
Cool.
Génial. Et puis, j'avais posé une autre question, c'est quel est le degré d'innovation dans le domaine de l'audio ? Parce qu'en vidéo, il y a des nouvelles caméras pour Avatar, etc. etc. et quel est en audio, comment ça se passe, quoi ? Merci.
Alors, sur le montant de Führer, je vais passer la parole à ma responsable adjointe qui est dans la salle, parce que je ne le connais pas exactement, j'en ai une idée, mais en tant que réalisateur, ce n'est pas moi qui négocie les contrats, ce n'est pas moi qui discute avec les comédiens. Voilà, on a dans le schéma, sur des fictions aussi importantes que celle de Führer, parce que, entendons-nous bien, c'est des fictions dans lesquelles France Culture met vachement de moyens, parce que il y a 3 ans de travail, il y a un auteur qui a bossé avec un script doctor. Enfin, il y a vraiment un travail préalable de Mehdi et de Mehdi après avec Thibaut qui est considérable. Il y a une pensée, etc. Il y a aussi une ligne éditoriale qui est hyper importante pour France Culture. C'est celle d'une génération d'auditeurs qu'il faut renouveler. Et Führer, même si c'est tout public, ça, je l'ai pensé, je le reconnais. Je me suis demandé, putain, à 15 ans, j'aurais voulu écouter quoi ? Voilà. Donc il y a ça aussi dans Führer. Si j'avais pas eu cette, c'est pas du tout une injonction, mais cette doléance éditoriale, peut-être que Führer aurait une autre tronche. Je l'ai vraiment pensé en me disant, moi, ado, qu'est-ce que j'aurais voulu écouter ? Voilà. Donc je passerai la parole à Brigitte sur les questions typiques de production, même si c'est assez difficile parce que il faut bien entendre que la maison de la radio, moi par exemple, je suis missionné à Radio France pour faire une fiction. Je suis pas un salarié de Radio France, je suis un intermittent du spectacle, je fais de la mise en scène, je joue, je fais du, enfin voilà. Les comédiens c'est pareil, le compositeur original c'est pareil. En revanche, les techniciens, l'assistante à la réalisation, etc., etc. Ça, c'est des gens qui sont, c'est du personnel de Radio France. Donc c'est assez difficile à valoriser en fait. Mais je laisserai répondre Brigitte. Sur les questions d'innovation sonore. Typiquement, là, depuis 2020, depuis 3 ans, et ça a été des sacrés débats chez nous, on a changé de logiciel de post-production. Travaillé sur Sadi avant, un logiciel que Radio France utilisait, mais il y avait à peu près que Radio France qui utilisait ça. Et là, on est passé sur un logiciel qui s'appelle Nuendo. Et Nuendo, alors attention, je suis pas technicien, je suis pas un ingé son, je suis réalisateur, j'ai que des notions. Comme metteur en scène, je vais pas toucher à la console de l'éclairagiste ni à la console du sondier. Comme le cinéaste aussi, je vais pas emmerder mon chef-op derrière le combo. Donc voilà, ce que je peux juste vous dire, c'est que Nuendo offre des possibilités, on va dire, d'optimisation, notamment du son en binaural. C'est beaucoup plus simple sur ce logiciel. Il y a beaucoup plus d'outils pour fabriquer le son en 3D. C'est beaucoup plus facile et en même temps beaucoup plus précis. On a, j'en parlais tout à l'heure très rapidement, des suites, des plugins qui permettent de rapidement, avant, peut-être certains d'entre vous connaissent ça, ce qu'on appelle un insert téléphonique, pardon. C'est-à-dire, vous devez passer un coup de fil. Vous avez quelqu'un au téléphone avec une voix
voix un peu comme ça. Et puis vous avez quelqu'un que vous avez en prise de son réel. Ça pouvait nous prendre très très longtemps, quoi. C'était abominable. Aujourd'hui, vous mettez un comédien dans un endroit, vous le séparez par un panneau, vous en mettez un autre à un autre endroit, vous prenez deux micros mono. Il y en a un dont vous prenez la voix. C'est du multipiste, hein, il y a deux pistes. Il y en a un dont vous prenez la voix. Vous choisissez un speakerphone particulier dans votre suite. Vous dites, voilà, je veux un téléphone des années 70, réglé. Donc c'est un gain de temps. C'est un petit investissement. Mais c'est un gain de temps derrière en post-production. Donc si vous travaillez en autoproduction et que vous réalisez tout de A à Z, vous avez le temps. Mais si vous faites l'embauche d'un ingé son parce que vous voulez que votre truc il soit voilà, techniquement plus abouti que ce que vous pourriez faire, effectivement, il y a des petits investissements à faire. C'est des petits investissements, hein. C'est des suites qui peuvent coûter jusqu'à 1000 balles, d'autres 400, c'est des petits investissements quand même. Mais voilà, il y a ça qui existe dans, voilà. Je parle que de ça, mais il y a, voilà. Après, et je terminerai là-dessus, hein, je voudrais pas monopoliser la conversation, excusez-moi. Après, à Radio France, on fait de la prise de son en natif de la même manière depuis des années. Une tête binaurale, pour ceux qui voient ce que c'est, hein, c'est une tête, c'est un crâne, ça fait depuis les années 80 qu'on l'utilise. Hein. C'est pas une innovation sonore, le binaural. Hein. Ça existe depuis des lustres. Et encore, là, on l'a pas fait avec une tête binaurale. On a un micro qui ressemble à un parapluie, où vous avez 7 points de prise de son, grosso modo. Donc vous avez un multipliste en 7 points, et c'est après le logiciel, la prise de son. Là, je laisserai les techniciens en parler, approfondir ça. Mais vous voyez ce que je veux dire ? En somme, c'est du matos. Et un savoir-faire. Mais c'est pas non plus de l'innovation sonore de dingue. Ce qui est innovant, c'est la post-production et c'est comment les garçons ont travaillé en post-prod pour mêler tout ça. Et là, j'ai plus les compétences pour en parler. Sur le, je passe rapidement le micro à Brigitte, hein, je me permets, hein, je te mets dedans, je suis désolé.
Oui, bonjour. Écoutez, c'est difficile pour moi de vous donner un chiffre parce que, effectivement, Baptiste a expliqué à la maison de la radio, il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont en CDI, les techniciens, les studios, les logiciels dont parle Baptiste. Donc, nous, on a un budget à la fiction de France Culture qui nous permet de gérer tout le plateau artistique pour aller vite. Hein, en gros, le plateau artistique, les réalisateurs, les comédiens, les bruiteurs. Les particularités, par exemple, quand Baptiste m'appelle et me dit « Brigitte, il me faut une Jeep », donc voilà, bon, d'accord, on va trouver une Jeep. Mais voilà, je ne peux pas, moi, vous donner un chiffre, parce que ça ne comprendrait pas tout le coût réel de Führer. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, Führer, ça fait partie des productions où on a budgété un montant cohérent, et on fait toujours extrêmement attention, puisque, comme vous le savez, c'est de l'argent public, donc chaque sous dépensé est bien dépensé. Voilà. J'ai un peu répondu à côté, mais je peux pas vous dire vraiment autre chose.
Bonjour, merci pour ces échanges, c'était très intéressant. Moi, j'ai une petite question pour Mehdi Bayad. Dans tes fictions, il y a beaucoup de sons que je qualifierais de naturels, c'est-à-dire que on écoute un animateur radio. On écoute des voix au téléphone. Si j'ai bien compris, dans la dernière fiction, que je n'ai pas encore écoutée, il y a un peu un mix des deux. Il y a et du son dit naturel, Talkie Walkie, etc., et du son plus comédien classique. En quoi ton écriture doit changer par rapport à cette contrainte-là de nous, en tant qu'auditeurs, on entend du son familier, du son qu'on connaît, donc encore une fois un animateur radio, versus c'est vraiment une fiction et on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi on entend du son. Je ne sais pas si ma question est claire, je n'ai pas l'impression.
Si... Non, je crois. Non, mais je ne sais pas trop. Après, encore une fois, quand tu poses un mécanisme, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, un peu précis, et que tu te bornes à rester dedans, tu peux t'amuser avec plein de codes. Là encore, moi, j'aime bien... Parce qu'on est un peu sur un terrain de... Enfin, on est là pour parler aussi de fiction indépendante et fiction soutenue par des plus grandes structures. Dans les fictions indépendantes, tu peux te permettre aussi... Enfin, moi, par exemple, quand j'en fais, je me dis, bon... Je m'en fous que ça plaise ou pas, en fait. Très concrètement, je m'en fous. Et même si c'est pas écouté, je me serais amusé. C'est un peu égoïste, hein. Je l'ai fait pour moi d'abord, en fait. Et donc, même dans le texte, je m'amuse un peu plus à avoir des choses plus, plus brouillonne ou plus expérimentale ou plus... Je parlais de ça avec Serge Tavitian, qui est de la RTBF, qui doit être dans la salle, là, juste avant, on buvait un café. Et pour certaines fictions, il y a, y a la volonté aussi d'avoir que les sons soient intelligibles, qu'il y ait un travail plus... Mais moi, quand je bricole dans ma chambre avec deux ou trois amis une fiction indépendante, je me moque de... Je veux dire, les sons peuvent gratter l'oreille, ça peut être sale, ça peut être à certains moments inaudible, les voix se mangent les unes les autres, et en fait, je trouve ça marrant, c'est un exercice, tu vois, tu joues, tu as aucune borne, tu as aucune... Et encore une fois, peu importe si... À la limite, même, si, c'est même mieux si c'est désagréable, parfois. J'aime bien ça. Parce que ça vous secoue un peu, tu vois. Et il y a cette liberté-là. Et après, quand tu as un cadre précis, encore une fois, bah là, par exemple, je crois que tu parlais de Lumière Noire, c'est le type tout seul à sa radio. Ouais. Et ben ça, par exemple, c'est une autre écriture, une autre prise de son où j'ai fait n'importe quoi. J'étais en roue libre totale parce que je voulais voir. Et par exemple, toutes les prises, en fait, tous les épisodes ont été écrits et enregistrés direct. Comme ça, je voulais pas avoir le temps de les relire. Donc le soir, je travaillais à ce moment-là dans un théâtre, machin. Je rentrais le soir et j'écrivais et dès que j'avais fini d'écrire l'épisode, je lançais l'enregistrement sans me relire une seule fois et je faisais une seule prise. Et je voulais et donc il y a plein d'erreurs ou de moments où ça bug, où je trébuche sur les mots. Ben, c'est pas grave. Et même il y a des pauses. À certains moments, le protagoniste dit bon, là, je vais me boire une bière ou je vais aux toilettes ou quoi. Et en fait, je me cassais vraiment. J'allais discuter. J'étais en coloc. À ce moment-là, j'allais voir mes colocs quelques minutes. Puis je revenais. Ça me mettait dans un autre état d'esprit et je continuais dans la même prise. Donc ces trucs-là, en fait, c'est juste. Je sais pas si je réponds. Je pars un peu ailleurs, mais en gros, c'est pour dire que dans. Enfin, faut pas avoir peur. Dans les fictions indépendantes, faut se faire plaisir et un peu s'en foutre. Il faut vraiment y aller, tenter des trucs et s'amuser. C'est pas grave, tu n'as pas le stress d'un budget, d'un planning à respecter. Je veux dire, après, moi, j'ai travaillé ensuite sur d'autres fictions aussi où il y avait plein de comédiens. Par exemple, la fiction policière dont on parlait tout à l'heure, je crois qu'il y avait 28 comédiens avec lesquels on travaillait longtemps. Mais là, en fait, tu te sens un peu obligé par rapport à eux parce qu'ils s'investissent dans ton travail, dans ton texte, sans parler des compositeurs, de l'équipe technique. Et donc... Comme des gens s'investissent vraiment dans ton truc, tu te sens un peu responsable de la qualité de ton texte, un peu plus. Tu vois ? Et donc, tu es un peu plus pro. Donc, en conclusion, il n'y a que des dons qui n'aient pas de fin à cette phrase, mais il faut s'amuser en fiction indépendante. Voilà.
Bonjour. Moi, j'avais une question pour Mehdi ou Mélanie. À quoi ça ressemble un scénario pour une fiction audio, en audiovisuel On le sait, c'est intérieur, extérieur, jour, nuit, on plante le décor, on décrit une action. Là, si est-ce que tu écris « il sort de la pièce » ou tu écris « on entend des bruits de pas, une porte qui claque » Donc, à quoi ça ressemble vraiment un scénario avec des didascalies ? Tu parlais de beaucoup de didascalies, Mehdi. Et ensuite, les dialogues, comment est-ce que...
Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de différence entre un scénario pour l'audio et un pour l'audiovisuel. Après, les différences, c'est, je pense, que ça dépend en fait des auteurs, mais moi, je décris quand même un peu les situations. Pas forcément, il y a des bruits de pas, mais des choses pour comprendre un peu l'environnement sonore, si c'est quelque chose d'important dans l'action. Et la seule grosse différence que je vois, c'est que ce que je fais aussi, c'est je distingue visuellement les voix qui vont être par exemple une voix off d'une voix de dialogue. Donc moi, c'est au niveau des je joue avec les marges,
les colonnes.
Ouais, c'est ça. Et sinon, je vois pas beaucoup de différence après. Enfin, si, la grosse différence, c'est évidemment, dans un scénario pour la télévision, on indique énormément de choses qui se passent visuellement, et tout ça, dans un scénario pour l'audio, moi, je le mets pas.
Oui, ben, en fait, je pense que ça dépend pas mal de l'auteur ou de l'autrice, à quel point il est exigeant, ou à quel point il met la focale sur des précisions, etc. Mais ça dépend aussi d'un projet à l'autre. Là, pour retourner à la RTBF, j'ai écrit une adaptation de Frankenstein. Et pour le coup, j'ai essayé d'être de ne pas trop imposer ce que j'imaginais. Le réalisateur, qui est Christopher Locke, qui est un réalisateur incroyable, a pris aussi des libertés. C'est juste, encore une fois, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Plus tu en mets, plus tu imposes un peu ton point de vue. Ça dépend la place que tu veux et après le dialogue que tu as avec le réalisateur ou la réalisatrice. Mais voilà, il y a des choses pour lesquelles parfois il faut une vision très précise. Moi, j'avais écrit un truc qui s'appelait Rouge Vif. Et là, je m'étais mis vraiment des toutes petites choses parce que c'était important pour que ce soit pour moi, parce que je le réalisais derrière. Mais ça dépendait vraiment de tout petits détails. Sinon, ça passait à côté. C'était un navet, le truc. Donc, il fallait vraiment être. Mais encore une fois, il y a plein de façons d'écrire des scénarios pour tous les médiums. Je sais pas, moi, je mets souvent bruit de, je sais pas, ouais, bruit de pas. Il ouvre la porte violemment. Ce genre de truc.
Ce sera la dernière question, parce qu'après on va nous mettre dehors. Mais peut-être qu'on va avoir quelques minutes avec eux. Vous avez bloqué la regarde encore.
J'ai une autre question pour Mehdi. Je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est un script doctor et quelle est la différence avec le travail d'autorice.
Alors, pour le coup, là, moi, j'ai travaillé, c'est la première fois de ma vie que je travaillais avec un script doctor. Normalement, en plus, il y a plein de trucs pour lesquels je relis pas du tout ce que j'écris et j'y vais direct un peu en freestyle. Mais là, je crois que c'est une nouveauté chez France Culture d'insister sur la qualité du texte et de prendre le temps de développer vraiment, voilà, la cohérence du propos, le rythme, l'intensité, la volonté de partager un thème, etc. Des choses qui parfois peuvent être un peu floues chez des auteurs. Surtout, enfin, moi je suis jeune encore et là, donc je découvre. Parfois je m'en mêle les pinceaux, ça peut être. Et donc là pour le coup, c'était avec Thibaut Martin qui a à peu près mon âge, mais qui a un regard scénaristique, j'allais dire professionnel, en tout cas aigu. Et donc, lui, sa faculté, c'est de théoriser des choses qui sont un peu instinctives chez moi. Je veux dire, moi, je n'ai pas appris tout ça. C'est à force de bouffer des films, des livres, des séries. Comme nous tous, en fait, j'ai intégré des codes et j'essaie de les analyser un peu avec lucidité pour parfois les détruire ou passer à côté, mais juste, voilà. Tandis que des gens ont fait des études spécifiques là-dessus et ont un regard sur comment installer un point, une cristallisation des tensions, la désamorcer au bon moment, créer du rythme, toutes ces choses-là. Voilà, donc là, il y avait un travail conséquent. Et en fait, Führer, c'est la version, je crois, 16 ou 17 du texte. Donc il y a eu un gros travail retourné pour que les personnages... voilà. Et ça, encore une fois, ça peut être un peu déroutant au début, parce que c'est ton texte, c'est ton bébé, t'es un peu, et puis quelqu'un arrive et le dissèque. Tu vois, un peu froidement, mais il faut prendre ça comme, enfin c'est super enrichissant. Avec ce type, en fait, on avait des discussions folles sur les scénarios. On partait, on digressait pendant des heures. Et donc voilà, je sais pas si j'ai répondu. C'est ça un script docteur. Ah, je crois qu'il y a...
Non, c'est comme une sorte d'agent spécial qui vient t'aider à être précis sur ce que tu veux raconter.
Ouais, pardon. En fait, j'ai parlé de mon ressenti, j'ai pas répondu à ta question.
C'est comme un C'est comme un consultant, quoi, en gros. Voilà. Il arrive et tout en hélico parce qu'ils ont de l'argent pour des hélicos.
Il a un regard extérieur sur la fiction, tu vois, et il pose un autre regard et il t'aide à structurer ta pensée, le texte, sans jamais écrire à ta place. Simplement, il te propose... en fait, c'est une discussion. C'est une discussion sur ton texte.
Voilà, donc notre rencontre touche à sa fin. Je vois qu'on m'a fait un signe de ex. Donc, merci au festival de nous avoir permis de faire cette rencontre, cette discussion. On a été libre sur le sujet avec notre administratrice Corinne Klomp et l'action culturelle de la SACD. Merci à la technique aussi, ils ont été nickel. Merci à vous. Merci à Baptiste, Mehdi et Mélanie. Donc vous pouvez écouter toutes leurs fictions, elles sont disponibles. Et merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Merci.
Merci Roswell.